Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne à brosse et liane, le cèdre du Liban et le vieux pin des Landes consultent un vaste plan. Le vent porta l'affaire à travers les forêts. Les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les lits et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libre de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient. Jamais de mémoire d'homme on entendit ce chant, et dans le cœur des hommes il résonnait comme un printemps. Si près de Palestine et l'arbre de Judée ont mêlé leurs racines autour de l'olivier. Les arbres de la terre se sont tendus les mains par-delà les frontières, au-dessus des humains. Et la rose des vents, échangeant les pollens, a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène. Et la rose des vents, échangeant les pollens, a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène. Cette légende ancienne, on l'entend dans les bois. Le vent, les vieux chênes la chantent encore parfois. Celui de Brocélian et le cèdre au Liban. Mais le vieux pin des Landes a brûlé entre-temps. Les seaux longtemps versés de larmes de rosée, emportés dans leurs feuilles les deuils du temps passé. Si nous n'entendions plus ce que le vent nous crie, les hommes auraient perdu la source de leur vie. Et le parfum des fleurs, la pulpe de leurs fruits, déverserait en vain au fond des cœurs meurtris. Des torrents de douceur et des flots d'harmonie.
Bonjour, vous êtes en compagnie de Caroline pour l'émission Le Temps des Fleurs. Ça y est, il fait froid, c'est l'hiver, une période où tout devrait être plus calme et où la nature somnole. En cette période de fête, c'est le moment idéal pour se laisser raconter des histoires, des contes et des légendes, bien au chaud au coin du feu. Je vais donc cette fois-ci plutôt vous raconter des histoires d'arbres. Alors vous êtes prêts, confortablement installés? On va commencer par une histoire autour de l'érable champêtre. Alors déjà, comment on reconnaît l'érable champêtre? En hiver, quand il n'a pas ses feuilles, c'est pas forcément évident. mais on peut le reconnaître par le fait que ses bourgeons sont opposés. Ils sont plutôt verdâtres ou brunâtres. Son tronc est couvert d'une écorce gris clair, plus ou moins crevassée. Et au printemps, finalement, c'est assez facile parce qu'on va apparaître ses feuilles à 5 lobes. Et à l'automne, on a aussi de très jolies couleurs flamboyantes, orange, rouge. L'érable champêtre est le symbole de l'indépendance, de la liberté, mais aussi de la réserve. L'érable champêtre invite à prendre le temps d'observer les choses et à porter des jugements modérés et des analyses sages. Voici donc un conte hongrois sur l'érable qui fait allusion à de nombreux contes et mythes différents. Un roi avait 3 filles. La plus jeune des 3 était blonde, d'une beauté et d'une bonté incomparables. Un jeune pâtre, qui faisait paître son troupeau sur la prairie du château, jouait tous les soirs de la flûte, et la jeune princesse l'écoutait. Une nuit, le roi, la princesse et le pâtre eurent un mauvais songe. Le roi vit en songe que sa couronne avait perdu ses diamants. La jeune princesse qu'elle avait visité le tombeau de sa mère et qu'elle n'en était point revenue. Et le pâtre, que 2 bêtes fauves avaient dévoré le plus bel agneau de son troupeau. Après ce songe, le roi appela les 3 filles et leur annonça que la première des 3 qui reviendrait avec un panier de fraises bien rempli serait sa fille bien-aimée qui hériterait de lui sa couronne et ses 7 royaumes. Les 3 filles s'en allèrent aussitôt à la recherche des fraises. Elles se rendirent sur une colline verdoyante. L'aînée des 3 filles jeta un cri. « Panier, remplis-toi pour que je puisse recevoir la couronne de mon père. » Le panier resta vide. La seconde fille à son tour reprit. « Panier, remplis-toi pour que je puisse recevoir les 7 royaumes de mon père. » Le panier resta vide. Après que les 2 sœurs aux cheveux noirs eurent ainsi parlé, la cadette aux cheveux blonds dit avec tendresse « Panier, remplis-toi pour que je puisse devenir la fille bien-aimée de mon père. » Et à l'instant même, le panier se remplit petit à petit de magnifiques fraises. À cette vue, les 2 sœurs, envieuses, craignant de perdre la couronne royale et l'héritage paternel, ôtèrent la vie de leur sœur cadette, et après l'avoir ensevelie sous un vieil érable, brisèrent le panier et se partagèrent entre elles les fraises. Revenues chez leur père, elles lui annoncèrent tristement que leur sœur avait disparu. Elle s'était trop avancée dans la forêt et avait probablement été dévorée par une bête fauve. Le père, à cette nouvelle, se couvrit la tête de cendres et cria « Oh malheur, j'ai perdu le diamant le plus précieux de ma couronne. » Le pâtre, après cette horrible nouvelle, à l'approche de la lune, essaya de mettre la flûte à sa bouche pour en tirer des sons. Mais la flûte devint muette. En effet, pourquoi la flûte jouerait-elle encore puisque la jeune princesse n'était plus là pour l'écouter, puisque la bête fauve avait dévoré le plus bel agneau de son troupeau. Sur la pente de la colline verdoyante, au pied du tronc du vieil érable, à l'arrivée de la 3e nuit, on vit sortir une nouvelle pousse, à l'endroit même où la jeune princesse avait été ensevelie. Un matin, en passant par là, le pâtre vit la nouvelle pousse de l'érable et eut grande envie d'en faire une nouvelle flûte. Dès qu'il eut approché cette flûte à ses lèvres, la flûte, enchantée, chanta ainsi. « Joue, joue, mon cher. Autrefois, j'étais la fille d'un roi. Maintenant, je suis une flûte faite en pousse d'érable. » Le pâtre apporta aussitôt alors sa flûte au roi. Le roi, à son tour, l'approcha de ses lèvres et la flûte reprit. « Joue, joue, mon père. Autrefois, j'étais la fille d'un roi. Maintenant, je suis une pousse d'érable, une flûte faite en pousse d'érable. » Les 2 sœurs n'y croyaient pas leurs oreilles et approchèrent elles aussi leurs lèvres et la flûte magique se mit à chanter à son tour. « Joue, joue, mon meurtrier, autrefois, J'étais la fine à roi. Maintenant, je suis une pousse d'érable. Une flûte en pousse d'érable. » Quelle surprise! Quelle effroyable annonce! Alors le roi, stupéfait, maudit aussitôt ses deux filles meurtrières et les chassa très loin du château. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de fin. Mais on peut peut-être en imaginer une. J'en ai choisi une. Il paraît que le roi passa le reste de son règne à chérir cet érable et à favoriser la plantation et l'entretien des haies et bosquets de ses contrées. Voilà, vous me direz, ça c'est une fin imaginée par une botaniste. Et oui. Maintenant, on va raconter le tilleul. Comment reconnaît-on un tilleul? On a plusieurs espèces de tilleuls, mais globalement. En été, c'est facile, on a ses feuilles un petit peu en forme de cœur. En hiver, on va le reconnaître grâce à ses bourgeons qui sont alternes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas opposés. Et ensuite, on va retrouver aussi ces petits bourgeons qui sont bossus, avec des écailles rougeâtres. Et là, son écorce va être d'un gris clair, plus ou moins crevassé en fonction de son âge. Est-ce que vous avez une idée de la longévité d'un tilleul? Figurez-vous qu'un tilleul peut vivre jusqu'à 1700 ans. C'est d'ailleurs pourquoi les tilleuls font beaucoup partie des traditions et du folklore. Dans la tradition celtique, le tilleul est utilisé depuis toujours pour justement améliorer la santé. Certains affirment même que l'ombre de l'arbre suffit pour guérir, en particulier les maladies d'origine nerveuse. Finalement, on s'en étonne pas vraiment, puisque maintenant on sait bien que le tilleul a des propriétés calmantes, apaisantes, et qu'il favorise le sommeil et la concentration. Et vous aurez remarqué aussi qu'on trouve souvent des tilleuls sur les plages des villes, des villages, parce que finalement ce sont des lieux où les gens, le peuple, se retrouvent traditionnellement pour faire des célébrations, des assemblées. Et en fait, par ses propriétés apaisantes, le tilleul faciliterait les débats et la vie en communauté. Et il était aussi considéré comme un arbre de justice pour porter des jugements sages. Il est le symbole de la féminité, justement en référence à la forme de ses feuilles, en forme de cœur, mais aussi à son parfum sucré et entêtant de ses fleurs. Et vous savez aussi qu'il peut nous offrir du miel, et un très bon miel, fabriqué par les abeilles qui finalement se délectent du miellat qui se trouve sur ses feuilles, issues de la piqûre de petits pucerons. Et donc, avec ça, elles font un bon nectar, qui est doux, aromatique, délicieux et nourricier. Il est aussi associé à l'amour maternel, conjugal et à la fidélité et à l'hospitalité. Et dans la mythologie grecque, on a justement une légende qui reprend cette symbolique. C'est la légende de Philémon et Baucis. C'est parti. Parfois, lorsque Zeus se lassait de goûter au nectar et à l'ambroisie de l'Olympe, ou même d'écouter la lyre d'Orphée et de regarder danser les muses, il lui arrivait de descendre sur la terre pour y courir l'aventure, déguisé en simple mortel. Pour ses randonnées, son compagnon favori était Hermès, le plus amusant de tous les dieux, le plus sagace et le plus fertile en ressources. Un jour, Zeus voulut savoir jusqu'à quel point le peuple phrygien pratiquait l'hospitalité. Le père des dieux et des hommes s'intéressait très particulièrement à cette vertu. Les deux dieux prirent donc l'apparence de pauvres vagabonds, coureurs de route, et se promenèrent au hasard à travers le pays, frappant à chaque chaumière basse, à chaque grande maison où ils venaient à passer, demandant partout de quoi se restaurer et un coin pour se reposer. Mais personne ne voulut les recevoir. Toujours, on les congédia avec insolence et la porte se fermait avec fracas. 100 fois et même davantage, ils répétèrent leurs essais. Partout, ils furent traités de la même façon. Vraiment très mécontents. Ils finirent par s'arrêter devant une cabane à l'aspect bien plus humble que toutes les autres demeures qu'ils avaient convoitées. C'était la plus pauvre, la plus petite de toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'ici. Elle était couverte d'un simple toit de roseaux. Mais là, quand ils frappèrent la porte, ils eurent la surprise de la voir s'ouvrir tout grand. Et une voix aimable les pria d'entrer. Ils durent se courber pour passer le seuil tant la porte était basse. Mais quand ils eurent pénétré à l'intérieur, ils trouvèrent dans une pièce chaude et accueillante où un vieil homme et une vieille femme au doux visage leur souhaitèrent la bienvenue de la façon la plus amicale et s'affairèrent à les mettre à l'aise. « Entrez, installez-vous. Nous sommes de pauvres gens, mais la pauvreté n'est pas un si grand malheur quand on est prêt à l'accepter. Et un esprit accommodant peut être lui aussi d'un grand secours, » dit le vieil homme. Ils se présentent, Philémon et Baucis. Ils se sont unis depuis l'enfance et ont vécu par tous les vents et tous les soleils, tranquillement, pauvres et amoureux pour la vie. Philémon et Baucis, Phil, simplement l'amour au quotidien. Le vieux couple a volontiers partagé sa petite quantité de nourriture et de vin avec les étrangers. Mais Baucis et Philémon ont fini par remarquer que la cruche de vin ne s'épuisait jamais et que leur pauvre vin habituel avait un goût bien meilleur, comme remplacé par du vin de meilleure qualité. Ils réalisèrent alors que leurs invités étaient des dieux. Une fois rafraîchis, Zeus et Hermès ont conduit le couple sur la colline au-dessus de la Phrygie. Et là, ils ont envoyé des chutes d'eau provoquant des inondations pour détruire toute la terre et punir toutes les personnes qui les avaient refoulées. Seule la cabane du vieux couple est restée intacte. Mais aussitôt, Zeus fit de la maison un temple pour que les dieux puissent y venir séjourner et ainsi faire de Philémon et Baucis leur hôte dans un confort de vie inespéré. Puis, il leur accorda un vœu. Ils ont choisi tous les deux celui de mourir ensemble. Plusieurs années plus tard, lorsque le moment de leur mort est venu, Baucis et Philémon se sont transformés en un arbre magnifique, mais unique, exceptionnel. Cet arbre était moitié tilleul et moitié chêne, avec un seul tronc, mais dont les branches et les racines s'entrelacent encore. Continue avec une histoire autour du frêne. Alors le frêne, comment reconnaît-on les frênes? C'est un arbre que vous côtoyez quand même assez régulièrement. En printemps, on va le reconnaître par ses feuilles qui sont composées, c'est-à-dire que une feuille est composée de plusieurs folioles, en général 5 folioles. 5, ça peut être jusque 8 quand même, 9. Les bourgeons vont être opposés. Ils sont noirs, marrons, et en fait, ils ont un toucher un peu velours. L'écorce du frêne est relativement lisse, et même quand il est vieux, il est légèrement, très légèrement crevassé. et son écorce est grise, souvent tachée de blanc, des taches qui ont une forme plutôt allongée, horizontale. Le frêne est un arbre qui se dissémine facilement parce qu'il a de jolis petits samars, des graines qui s'envolent. Et souvent, on peut avoir de très beaux frênes qui sont majestueux, qui sont finalement très gros, qui peuvent être aussi gros qu'un chêne. Mais c'est un arbre qui ne vieillit pas très vieux. Il vit, on va dire, on peut aller jusque 275-300 ans. Et à l'instar du chêne, le frêne est quand même tout de même un symbole de solidité, de grandeur et d'immortalité. Car comme je l'ai dit, on voit souvent de très très beaux arbres. Et d'ailleurs, dans la tradition scandinave, cet arbre symbolise la vie et l'immortalité. Et il sert de lien entre les trois niveaux du cosmos. Dans l'Edda poétique scandinave, on parle d'un immense frêne nommé Yggdrasil, qui abrite 9 royaumes. Je vous le décris ? C'est parti. Ses pieds descendent dans les entrailles de la terre. Ses rameaux couvrent le monde entier. Sa tête s'élève jusqu'au ciel. 3 racines immenses le soutiennent. La première touche les enfers, le royaume souterrain, celui des morts, Niflheim. La seconde va au pays des géants, tout à côté du royaume des hommes, Midgard. Et la troisième va à la demeure des dieux, le royaume des As, Asgard. On dit que 3 sources gisaient à son pied. La source de la sagesse, Mimisbrunn, qui est gardée par Mimir. La source de la Helvegelmir, qui est une bouilloire ronflante, qui donne en fait naissance à tous les autres fleuves de la terre. Et la source du destin, Urdaburn, qui est gardée par les 3 nornes, Urd, Verdandi et Schuld, qui représentent le passé, le présent et l'avenir. Ces 3 créatures arrosaient le frêne pour qu'il ne se dessèche pas, et elles abreuvaient aussi les dieux lorsqu'ils devaient rendre justice. Mais une de leurs occupations principales était de déterminer la destinée de chaque être, qu'il soit divin ou humain. Elles tiennent entre leurs mains le fil de la vie. Elles le tordent entre leurs doigts osseux. Elles le roulent sur leurs rudes quenouilles et elles le couplent avec des ciseaux de fer. Yggdrasil abrite également des animaux. Dans le haut de ses branches, un aigle au grand savoir se tient perché. Il est appelé Vedfolnir. Une des racines est rongée par le serpent géant Nidhogg, qui se love tout autour des racines d'Yggdrasil. D'ailleurs, Nidhogg n'est pas le seul serpent, il y en a toute une multitude en son pied. L'aigle discute avec Nidhogg via Ratatosk, l'écureuil messager connu pour ses potins, qui doit parcourir de haut en bas, de bas en haut, le frêne pour transmettre des paroles peu amicales entre les 2 animaux. Et oui, finalement, le temps qu'il entretient la haine entre Nidhogg et Vedfolnir, il ne craint rien de ces 2 prédateurs. Puis, il y a aussi 4 cerfs, représentant les 4 vents qui couraient, disait-on, le long des branches et qui se partageaient les feuilles, comme les 4 saisons se partagent l'œuvre du temps. Bref, voilà ici un arbre qui porte le cycle de la vie et un cycle d'éternité. D'autres rares récits parlent de Yggdrasil comme d'un if, ce qui peut le rendre un petit peu plus réel et crédible, étant donné que l'if peut vivre jusqu'à 3000 ans, contre à peine 300 ans, comme on l'a dit pour le frêne. En tout cas, il paraît qu'un tel arbre eût réellement existé, bien qu'il ne portait pas les 9 mondes, évidemment. En effet, les Saxons du 8e siècle vénéraient un frêne sacré appelé Irmundsul. Cet arbre fut malheureusement abattu par Charlemagne en 772, car en effet, il représentait tout pour les Saxons païens. Mais comme c'était l'ère de la christianisation, il fallait bien détruire les objets de vénération, et donc il fut abattu pour montrer que ce n'était qu'un arbre. Et la christianisation des Saxons fut donc réalisée assez brutalement, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, je vais vous parler de l'aubépine. Alors, l'aubépine, on peut dire que c'est un petit arbre. C'est vrai qu'on le voit souvent à l'état d'un arbuste. Mais c'est un petit arbre parce qu'il peut atteindre quand même 9 mètres de haut quand il est bien vieux. D'ailleurs, en France, on a une aubépine qui est très vieille, qui se trouve en Mayenne. Et là, ça va vous surprendre encore parce qu'elle est estimée à 1700 ans. Comment on reconnaît l'aubépine? L'aubépine, en fait, elle a des petites feuilles, lobées, et elle a des petits fruits rouges qu'on appelle des senelles. Et elle a surtout des rameaux très épineux. D'ailleurs, elle porte le nom d'épine blanche, Alba spina. Ces bourgeons sont alternes et spiralés, ça veut dire qu'ils se disposent en spirale tout autour du rameau. Et ils sont rougeâtres, et l'écorce de l'aubépine est finalement foncée, de couleur marron, et finement fissurée. L'aubépine a pour symbole l'amour, la fertilité et le renouveau. Et elle a toujours été considérée comme une plante protectrice depuis l'Antiquité. Ainsi, paraît-il, que la foudre ne frappe jamais une aubépine. Dans la religion catholique, l'aubépine a une place importante. Et la foudre ne peut pas frapper l'aubépine, car l'œuvre du diable ne peut pas atteindre une plante qui a touché le front du Christ, puisque, paraît-il, la couronne du Christ a été faite, entre autres, en rameaux d'aubépine. Le côté protecteur de l'aubépine a souvent été utilisé traditionnellement en posant des rameaux d'aubépine un peu partout dans la maison, notamment autour des berceaux, pour protéger l'enfant des mauvais esprits, des mauvais sorts et des maladies. On en mettait aussi au pied du lit conjugal pour assurer la fertilité et la fidélité. Maintenant, je vais vous raconter un conte autour de l'aubépine. C'est un conte assez long qui s'intitule « La fille aux mains coupées ». Il était une fois un veuf qui avait une fille, une très jolie petite fille, douce et gentille. Alors, pensant bien faire pour l'éducation de sa petite, il décida de se remarier. Seulement, sa deuxième femme avait déjà une fille, aussi laide et méchante que la sienne était belle et aimable. L'homme était commandant sur un navire, et donc il partait souvent en mer, parfois pour très longtemps. Le temps passé, elle grandit. Mais elle a grandi dans la haine de sa marâtre et de sa méchante sœur. Elles ne l'ont jamais aimée à cause de sa beauté. Un jour, tandis que son mari était parti sur la mer, la marâtre emmena sa belle-fille pour cueillir des fleurs au fond de la forêt. Là, elles trouvèrent une belle aubépine en fleurs, si vieille et si grande qu'on aurait pu dire un arbre. La jeune fille se mit à cueillir les branches fleuries, tout en prenant garde aux épines. Quand soudain, la marâtre arriva par derrière et lui trancha les deux mains avec une hache. C'est ainsi que la belle et douce devint la fille aux mains coupées. Ensuite, la belle-mère la fit monter dans l'arbre et la laissa là, incapable de redescendre toute seule. En redescendant de l'aubépine, la marâtre se planta une épine dans le genou. C'est mauvais, ces épines-là. Alors la fille aux mains coupées lui dit « cette épine d'aubépine ne ressortira que par mes mains. » La vieille partit en courant, abandonnant la fille aux mains coupées. Elle pleurait de honte maintenant, elle regrettait son geste, mais c'était trop tard. La fille mourra probablement dans les bois. En rentrant chez elle, elle dut se coucher, son genou enflé par l'épine d'aubépine qui lui causait une douleur immense. Personne ne put lui enlever cette épine, personne. Les jours passaient, cette épine grandissait, grandissait. Ça faisait comme un petit pied d'aubépine maintenant. Pendant ce temps, au fond des bois, la fille aux mains coupées était en train de mourir de faim dans son aubépine. Mais voilà qu'une pie vint se poser sur l'aubépine. Dans son bec, elle tenait un petit morceau de pain. Et elle s'approcha de la jeune fille et lui mit le bout de pain dans la bouche. Tous les jours, la pie venait lui porter à manger. C'était devenu sa mère nourrice. Elle était sauvée. Et pour éviter l'ennui, la fille aux mains coupées chantait toute la journée. C'est alors qu'un soldat en permission, qui chassait dans les parages, entendit chanter dans les bois. C'était si joli qu'il voulait voir d'où ça venait. Et il découvre la jeune fille si belle malgré ses mains coupées. Alors, en faisant attention, la porta sur son dos. Et il réussit à la faire descendre pour la ramener chez lui. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du soldat, il appela sa mère. « Regarde, maman, cette pauvre fille aux mains coupées qui n'a plus de famille. On va la prendre à la maison. On s'en occupera. » La maman du soldat a été tout attendrie et elle l'a trouvé si jolie. Mais lorsqu'il annonça quelque temps plus tard qu'il voulait l'épouser, la mère n'accepta pas qu'il épouse une fille aux mains coupées, une fille qui n'avait pas de famille. Mais ils se sont mariés quand même, contre l'avis de la mère qui s'est mise à la détester en secret. Lorsque le garçon est reparti à la guerre, la fille aux mains coupées était enceinte. Les mois passèrent et elle accoucha de deux beaux bébés, un garçon et une fille. La vieille proposa d'écrire pour elle à son fils pour lui annoncer la nouvelle. Mais voilà ce que disait sa lettre. La fille aux mains coupées a accouché d'un chiot et d'un veau. Le chiot aboie tout le temps, le veau brame tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire ? En réponse, elle reçut de son fils ce message. Qu'il soit chiot, qu'il soit veau, gardez les enfants, gardez la mère. Ayant pris soin de remplacer juste deux mots, elle montra la lettre du soldat à sa belle-fille. Elle disait: qu'il soit chiot, qu'il soit veau, tuez les enfants, tuez la mère. Devant le désarroi de la jeune femme, elle s'empressa d'ajouter: « Je ne vous tuerai pas, je vais vous emmener dans la forêt, mais vous ne devrez jamais en ressortir. » La fille en larmes accepta de lui obéir. Alors la vieille lui mit une hotte sur le dos, avec les bébés dedans, et ils sont partis dans la forêt. Seule, avec ses enfants, la fille commença à avoir soif. Il y avait bien une rivière là, mais elle ne savait pas comment faire. Si elle se penchait, les enfants glissaient de la hotte et tombaient dans la rivière, sans qu'elle puisse les rattraper sans ses mains. Si elle ne se penchait pas pour boire, elle mourrait de soif et les bébés avec. Finalement, au bout de 3 jours, elle tente de boire. Et plouf ! Les deux enfants glissent de la hotte dans la rivière. Paniquée, que faire ? Mais là, apparaît une belle dame, assise au bord de l'eau, la regarde et lui dit « Trempe tes bras dans la rivière. » Alors, elle trempe ses bras et voilà que ses mains réapparaissent et elle peut ainsi rattraper ses enfants et les sauver. Elle alla ensuite s'installer dans une grotte non loin pour reprendre ses forces, où la pie nourrice est venue les retrouver pour s'occuper des enfants. De son côté, la vieille avait fait enterrer des cercueils vides, disant que les petites étaient morts et que la mère était morte de chagrin. Quand le soldat revint de la guerre, il crut à l'histoire de sa mère. Après avoir beaucoup pleuré, bien des années plus tard, il repartit chasser dans la forêt. Un jour, au plus profond des bois, il trouva deux enfants accompagnés d'une pie. Il fut très étonné de voir là deux enfants, surtout que leur petit visage si joli lui rappelait quelque chose. « Que faites-vous là, les enfants ?»« Nous, on cherche des champignons et à manger pour notre mère. Et là, c'est mère nourrice, la pie, qui s'occupe de nous. » L'homme était de plus en plus intrigué. « Et vous accepteriez de m'amener à votre mère, les enfants ?» Oui, ils l'amenèrent à la grotte, avec la pie, qui les suivait d'arbre en arbre. Quand il vit leur maman, il fut très ému. Elle ressemblait tellement à sa femme, mais elle avait des mains. Troublé, il se mit à raconter cette histoire à cette belle femme. « Oh, j'avais une épouse comme vous, belle comme vous, qui vous ressemblait. Mais elle avait les mains coupées et elle est morte avec ses deux enfants, ma mère me l'a dit. » Alors la jeune femme se met à pleurer et elle lui tombe dans les bras et à son tour elle lui raconte tout. Alors ils sont rentrés à la maison et aussitôt il alla enfermer sa mauvaise mère dans un souterrain. Plus tard, la fille aux mains retrouvées a voulu revoir la maison de son père. L'épine plantée dans le genou de sa marâtre était devenue un arbre qui sortait par le toit. C'était le printemps, c'était joli, joli cette aubépine en fleurs, tout en fleurs. Cachée sous un déguisement, la jeune femme s'approche de son père et lui demande « Je suis docteur d'épines, j'enlève les épines d'aubépine. » Et là, il s'écrie « Mais quelle chance, il faut que vous veniez voir ma femme !» La marâtre souffrait depuis tant d'années qu'elle avait eu bien le temps de regretter son crime. Elle voit la jeune femme qui s'avance et lui dit, résignée, « Oh, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer, je mourrai avec cette épine dans le genou. Ma belle-fille me l'a dit. Cette épine d'aubépine ne ressortira que par mes mains. » « Quand même, » répond la jeune femme, « on va quand même essayer. » Et elle pose ses mains sur le genou en disant, « cette épine d'aubépine sortira par mes mains. » En disant ces mots et en les répétant, l'aubépine se mit à rétrécir encore, puis tournoyer, puis danser dans la chambre, jusqu'à redevenir une simple épine dans le genou que la fille put enlever avec ses mains. La belle-mère était guérie et elle avait compris. « Viens, viens vite, ta fille est revenue, je suis guérie !» crie-t-elle à son mari. On raconte qu'ils ont fini par tous aller habiter dans la maison du soldat et ils ont même fini par délivrer la vieille du souterrain. Et la pie, la mère nourrice, a fait son nid non loin dans le jardin, sûrement dans une aubépine. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour cette émission qui, j'espère, vous aura permis de vous replonger dans votre imaginaire, à vous laisser bercer par des histoires féeriques tout à fait d'ambiance à l'approche des fêtes de Noël. Vous aurez peut-être l'occasion de m'entendre encore vous raconter quelques légendes sur les arbres et arbustes pendant ces 3-4 semaines autour des fêtes de fin d'année. Une légende, un conte par-ci par-là. Le temps d'une petite pause. En attendant, je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes, un bel hiver. C'était Caroline de l'association Primula Plandium.
Chanson pour les mois d'hiver, chanson pour rêver, chanson douce amère. En plein cœur de décembre, il tombe des étoiles de neige. L'automne est déjà loin derrière. La forêt enneigée calme les colères. Il y a ce silence qui hante les montagnes et la plaine. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi un air, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme comme le feu. Moi j'éteins la lumière, y'a plus que nous deux sur la terre. Il n'y a pas de misère, il n'y a que la vie, l'amour et l'hiver. Et puis on est ensemble, si tendre, le cœur grand ouvert. Je ne pense plus à la mer, en mitouflé dans tes yeux dans l'univers. Je ne veux plus redescendre la pente. Je veux rester dans l'hiver. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi, mère, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme. Moi j'éteins la lumière, y'a plus que nous deux sur la terre. Et loin de nous les inquiétudes du temps. Ici y'a que toi et moi et le vent. Je regarde nos pas dans la neige et je ressens nos cœurs battants sur ta la terre.